Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 17 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est intitulée « Bouche cousue, poison mortel ». Elle est issue du recueil « Le livre des chemins » de Henri Gougaud. Il était une fois, deux fois, maintes fois, une fille de riche, belle, avenante, désirée des jeunes gens à marier. En vérité, nul ne voyait le couteau que cachait son cœur. Elle eut un époux, il mourut. Un deuxième, même misère. Un autre encore, il résista. Qu'avait-elle fait au premier ? Rien de nocif, apparemment. Elle avait dit à chacun d'eux : Je suis parfois d'humeur revêche. Je peux pour un rien m'emporter, j'en suis capable, je le sais. Garde pour toi nos fâcheries. Or, les murs de cette maison n'en parlent jamais à personne. Promets-moi cela, rien de plus. Ils avaient promis de bon cœur. L'exigence était si touchante. Pudeur de femme, avait dit l'un. Et l'autre, ami, sois rassuré, ton désir est aussi le mien. Première nuit, lumière éteinte, l'amour s'en vient et fait son nid. Mais au matin, qui se réveille ? Il arrive qu'on soit surpris. Revêche, l'épouse nouvelle, agaçante parfois. Oh non, infréquentable, venimeuse, hurlant de l'aube au soir tombé contre l'époux, contre le monde, sans cesse à ruminer son fiel, empuantissant la maison de méchanceté ricanante, voilà la sinistre mégère que les malheureux imprudents avaient dû souffrir, le dos rond d'un jour désespérant à l'autre. Le pire était qu'ils n'avaient pu confier leur peine à personne. Tous les deux en étaient tombés en mortelle mélancolie. Vint le troisième. Il survécut. Il fit le serment exigé, mais des insultes, des colères, des cris aigris de sa femme, il ne garda rien, pas un mot. Comment fit-il ? Le soir venu, il s'asseyait dans son jardin devant toujours la même pierre et lui racontait ses malheurs. Le temps passa. La treize langue, c'est ainsi qu'on nomme chez nous les impitoyables bavardes, en vint à ne plus supporter le silence de son époux. Elle en fit une maladie dont elle guérit au cimetière. De ce jour, enfin, elle se tut. L'homme hérita de tous ses biens et vécut enfin sans souci. Un soir, il rendit visite au caillou qu'il avait si longtemps aidé à endurer l'insupportable. Il le prit dans sa main et en resta bouche bée. Il était carié comme une vieille dent et farci de mauvais insectes. Tous les chagrins, tous les poisons, toutes les plaintes confiées étaient là, grouillantes, enfermées. Si ton âme est en peine, parle, même une pierre t'entendra. Disent les vieux qui savent tout. Voilà une bonne parole. Celle-là, garde-la pour toi. Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par les pensées que nous nourrissons sur ce qui nous arrive. Épictète. En lisant ce conte et la demande de la jeune épouse à ses différents conjoints, venait à moi la phrase « Le linge sale se lave en famille ». Cette maxime que j'ai entendue à de nombreuses reprises m'interroge. Quelle est l'intention derrière cette expression ? Comme le premier époux, nous pouvons nous interroger s'il s'agit de pudeur. Si nous regardons la définition du Larousse, la pudeur est une disposition à éprouver de la gêne devant l'évocation de choses très personnelles qui peuvent blesser la décence. Il semblerait donc que chez la jeune épouse, il y ait une conscience de ses comportements hors normes qui pourraient blesser la décence, c'est-à-dire les convenances. Nous pouvons voir alors dans sa demande une peur d'être rejetée si ses comportements, entre guillemets, anormaux, se savaient. Et son deuxième époux semble partager cette peur quand il dit « Sois rassuré, ton désir est aussi le mien ». Nous avons déjà évoqué dans l'épisode intitulé « Le choix de Kofi » le fait que l'homme en interaction est partagé entre son besoin d'appartenance et son besoin d'être connu dans ce qu'il est. Ici, ce que la femme est, n'est pas moralement admis. Ce n'est pas dans les convenances. Son besoin en société va donc être essentiellement un besoin d'appartenance, et donc elle va nier, taire ses différences. Il y a une rupture. La jeune femme est à l'intérieur du cercle familial différemment qu'à l'extérieur dans le cercle social. Et elle impose cette dissociation à ses époux successifs. Elle leur impose d'être comme elle, coupée à l'intérieur d'elle-même et donc coupable. Se pose la question de la promesse. Est-ce juste de solliciter une promesse ? Une promesse engage une personne sur l'avenir à partir de données disponibles à un temps T. Or, le changement étant permanent, ces données vont évoluer. Comme le dit joliment ce conte, « Première nuit, lumière éteinte, l'amour s'en vient et fait son nuit, mais au matin, qui se réveille ?» Pourtant, les trois époux ont pris ce risque de promettre et ont chacun tenu leur engagement malgré la souffrance et le malheur. En tenant leur promesse, ils ont accepté d'une certaine façon cette maltraitance. J'aime beaucoup cette phrase « il faut choisir entre avoir raison ou être heureux ». Et l'impression que j'ai est que les trois époux ont mis leur engagement avant leur propre bonheur. Et c'est leur choix, un choix qui leur est propre et qui est tout à fait respectable. Le tout est juste d'avoir conscience qu'il s'agit d'un choix. Si nous prenons un moment, nous pouvons nous-mêmes nous interroger sur les engagements que nous avons pris. Les engagements professionnels, par exemple, mais aussi nos engagements personnels, amoureux. Quel choix avons-nous fait ? Et quel choix faisons-nous au quotidien ? Comment renouvelons-nous les choix que nous faisons ? Quand une situation ne se passe pas bien, nous avons trois possibilités, trois choix et un non-choix. Les trois choix sont améliorer, accepter ou quitter. Et le non-choix, qui est une forme de refuge, est la plainte. Or, être acteur de sa vie, c'est faire des choix en évitant justement l'écueil de cette plainte. Alors, si nous nous penchons sur le comportement de la jeune épouse, nous voyons que sa maltraitance passe essentiellement par la parole. D'ailleurs, le narrateur la qualifie de 13 langues. Elle hurle de l'aube au soir tombé contre l'époux, contre le monde, sans cesse à ruminer son fiel, empuantissant la maison de méchanceté ricanante. Je me souviens, il y a quelques années de cela, avoir partagé mon bureau avec une collègue qui passait ses journées à se plaindre et à critiquer toute l'entreprise. C'était très pesant pour moi, et j'avais clairement ressenti à quel point ce discours négatif permanent m'impactait et me pesait. Un peu comme le caillou noirci, les paroles de ma collègue agissaient sur moi et sur ma motivation, sur mon envie et surtout sur mon énergie. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous trois des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui me semblent être illustrés par ce conte. Don Miguel Ruiz est un chaman mexicain qui vit en Californie. Alors qu'il faisait des études de médecine pour devenir chirurgien, il fit une expérience de mort imminente qui changea le cours de sa vie. Et alors, il décida de se consacrer à la transmission et à l'étude de la sagesse ancestrale des Toltecs. Le premier accord Toltec est le parfait contre-exemple du comportement de la jeune épouse du comte. Il s'agit d'avoir une parole impeccable. Pour Don Miguel Ruiz, notre parole est notre pouvoir créateur. D'ailleurs, nous pouvons noter que dans le livre de la Genèse, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». C'est par la parole que nous manifestons les choses. La parole n'est pas simplement un son ou un symbole, c'est une force. La parole est notre capacité à nous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de notre vie. Elle peut être créatrice, mais aussi destructrice, comme chez la femme de ce conte. Avoir une parole impeccable, c'est parler avec intégrité, dire seulement ce que nous pensons vraiment, ne pas utiliser la parole contre nous-mêmes ni contre les autres, ne pas mentir ni calomnier. Le deuxième accord, ou le deuxième principe de vie, est sans doute observé par le troisième mari du conte. Ce deuxième accord est le suivant. « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Le conte nous dit « Des insultes, des colères, des criailleries de sa femme, le troisième mari ne garda rien, pas un mot. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelqu'un m'insulte ou prononce une parole blessante, j'en fais une affaire personnelle à partir du moment où je donne mon accord à ce qui est dit. Dès lors que le poison s'infiltre en moi, je suis piégé. Dès lors que j'accorde du crédit ou de l'importance à ce qui a été dit et que je le fais mien d'une certaine manière, je suis piégé. Or, notre troisième mari ne laisse rien pénétrer en lui. Nous ne sommes aucunement responsables de ce que les autres font. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, de leur colère, de notre fantasme. Nous n'avons rien à voir avec ça. Don Miguel Ruiz dit « Si vous refusez ce poison, c'est celui qui vous l'envoie qui s'en trouvera encore plus mal. » Et c'est bien ce qui semble se passer dans le conte, puisque la femme en fait une maladie et en meurt. Enfin, le troisième accord dont je souhaitais parler est ne pas faire de suppositions. Il est très intéressant de voir comment l'esprit humain fonctionne. Nous avons besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout comprendre afin de nous rassurer. Ne pas faire de suppositions, c'est ne plus élaborer des hypothèses de probabilité négatives pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitudes. Le troisième mari aurait pu faire bien des hypothèses, comme le fait, par exemple, que son calvaire ne finira jamais, que sa femme voulait sa mort, comme pour les précédents maris, etc. Comme disait Bernanos, l'espérance est un risque à courir. Le meilleur moyen de nous empêcher de faire des suppositions est tout simplement de poser des questions et de s'efforcer de communiquer clairement avec les autres. Voilà pour les accords Toltec, ou du moins les trois qui me paraissaient pertinents par rapport à ce conte. Mais au-delà de tout ce qui a déjà été dit, le conte nous amène un enseignement supplémentaire. Si ton âme est en peine, parle, même une pierre t'entendra. Il en va de notre capacité à aller chercher de l'aide, ou tout simplement à dire les choses. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Exprimer ses peines, ne serait-ce que dans un journal intime, permet de les poser sur le papier et donc de les mettre à distance, de les conscientiser. James Pennebaker, qui est l'auteur du livre « Écrire pour se soigner, la science et la pratique de l'écriture expressive », a montré que tenir un journal intime donne la possibilité de mieux dormir la nuit et d'améliorer nos relations sociales. Ces travaux ont d'ailleurs permis d'affirmer que cette activité permet d'être moins impacté par la fatigue, mais aussi d'éviter certains maux tels que le rhume. De plus, toujours pour James Pennebaker, dans le cas des personnes ayant perdu leur emploi, le journal intime donnerait la force d'en retrouver un plus rapidement. Le journal intime permet de se vider la tête. C'est une porte d'entrée vers soi. Le fait de coucher nos idées sur le papier nous oblige à nous écouter et donc à mieux nous connaître. Le tout, comme dans beaucoup d'habitudes vertueuses, est de commencer à tenir ce fameux journal et de s'y tenir avec régularité. Cela peut être juste 5 ou 10 minutes par jour quand on ne nous sommes pas très inspirés, ou plus si affinité. Maintenant, portons le regard sur l'entreprise. Nous parlons toujours du journal intime dans la sphère privée. Mais ça ressemblerait à quoi un journal du manager ou du collaborateur ? Prendre 5 à 10 minutes en fin de journée avant de quitter le travail ou de couper le PC et porter le regard sur la journée écoulée avec ce qu'on appelle en coaching un regard méta, c'est-à-dire un regard s'intéressant non pas au contenu mais au processus. Comment ai-je fonctionné avec mes collègues, avec mes équipes, avec mes clients aujourd'hui ? Ce serait une invitation à avoir une réflexivité sur nos pratiques professionnelles et même une occasion d'ancrer quelques apprentissages. Qu'est-ce que je me suis vu faire aujourd'hui de légèrement différent ? Quel risque de changement j'ai pris ? Qu'est-ce que ça a produit ? Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons d'un roi cyclotymique. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir et de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le compte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt !